Le grand entretien de France Inter cette année à deux voix avec vous, ma chère Léa Salamé.
Oui.
Nous aurons, comment dire, le plaisir de recevoir et d'interroger,
l'honneur
d'interroger ensemble nos invités. Les auditeurs nous rejoindront évidemment par téléphone au 01 45 24 7000 et via les réseaux sociaux s'ils préfèrent ou l'application France Inter. Le premier invité de cette saison est écrivain intellectuel. Pour cette rentrée littéraire, il publie Les cigognes sont immortelles. Les cigognes sont immortel aux éditions du Seuil, où l'on retrouve l'univers, de Petit Piment, publié il y a 3 ans, le Congo, dans ce livre, vu à travers les yeux d'un enfant. Alain Mabankou, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être sur France Inter. Vous revoilà donc au Congo,
oui. Dans
les années 70. Notre guide s'appelle Michel. Ça n'est plus vraiment un enfant, pas encore un adolescent. Dites-nous pour commencer, pourquoi avoir choisi de suivre un enfant, de suivre cet enfant? Est-ce que c'était par nostalgie de votre propre enfance, ou parce que la naïveté est l'une des plus belles vertus au monde?
Je pense qu'il faut toujours revenir à l'enfance. L'écrivain, c'est un enfant, il est resté un enfant, et ceux qui savent le rester pendant longtemps font toujours des choses qui vont jusqu'au public. Moi, l'idée d'écrire Les cigognes sont immortelles, curieusement, est venue de Jacques Chirac. On va peut-être se dire que c'est un scoop matinal réservé à France
Inter. Je vous le confirme, ouais.
Non, c'est Jacques Chirac. Quand je l'avais vu la dernière fois, le voyant fatigué, je me suis rappelé cette époque en 1977. C'était un dimanche, le 20 mars 1977. Il venait d'être élu pour la première fois maire de la ville de Paris. C'était cette élection. Et nous, depuis 2 jours, un président était mort. On n'en parlait pas. On nous a parlé pendant longtemps de l'élection de Jacques Chirac, de ses cheveux qui étaient tirés, de la cigarette.
Là-bas.
Oui, en Afrique. En Afrique, on a l'art de réinventer l'information internationale pour couver l'information nationale. Et j'ai vu cela, quand je l'ai vu ici, j'ai pensé à ces cigognes. Je me suis dit, quelles sont les relations qui se sont tissées à travers l'histoire de France et l'histoire d'Afrique? Comme je ne peux pas parler au nom de toute l'Afrique, j'ai pris le détail qui donnerait peut-être la succulence pour les gens d'aller vers le continent africain.
Vous avez choisi, comme souvent dans vos livres, Alain Mabankou, de décrire plutôt que de juger. Vous racontez des choses très dures, la dictature à la fin des années 70, la révolution marxiste, le capitalisme africain, mais avec des yeux d'enfant. Et du coup, ça donne des choses très cocasses, voire très drôles, comme quand vous êtes enfant et que vous accueillez avec d'autres enfants à l'aéroport, en grande pompe, avec des chants, le dictateur roumain Nicolae Ceaușescu.
Ah oui, ça c'était un moment d'anthologie parce que ce n'est pas même de la fiction. Moi, j'ai applaudi Nicolae Ceaușescu au Congo-Brazzaville. Nous avons chanté « Nicolae Ceaușescu, notre papa est arrivé, nous n'aurons plus faim, on va manger ». Et puis comme il était accompagné d'Elena Ceaușescu, on a dit « Maman Elena Ceaușescu a les yeux les plus beaux de la terre, elle est venue avec papa Nicolae Ceaușescu ». Or, c'était une chanson qui était réservée à tous les présidents. Donc, il fallait simplement changer le nom. Mais bon, imaginez, quand Pompidou est arrivé, on a dit, attendez, vous n'allez pas chanter la chanson de Ceaușescu sur Pompidou. On a changé, on a commencé à dire, tonton Pompidou est arrivé, c'est l'oncle, on n'aura plus faim. C'était ça.
Mais l'idée, c'est de raconter dans ce livre les faits, de décrire les choses sans aucune moralisation. À aucun moment, vous vous laissez aller
Je pense que l'écrivain ne doit pas être un professeur. Moi, j'ai la chance d'être un écrivain qui est devenu un professeur, pas un professeur qui est devenu écrivain. En général, les professeurs qui deviennent écrivains bavardent dans les livres, alors que les écrivains qui deviennent professeurs essayent d'idéaliser la culture, la littérature. Quand j'enseigne, je ne catéchise pas. J'essaie de chercher, comme dans l'arbre à palabre, les éléments de la courtoisie de la parole.
Alors,
j'ai eu dans ma culture.
Alors précisément, Alain Mabankou, la colonisation est très présente dans ce livre. Et qu'est-ce que l'écriture romanesque permet de comprendre de ce moment de l'histoire que l'histoire ou la science politique raterait?
Je pense que ce que le roman permet, c'est ce côté un peu mesuré dans la narration. Je vais dire que les rapports entre la France et l'Afrique n'ont jamais été discutés de façon apaisée, chacun prenant un verre d'eau, l'autre tirant un raisin, peut-être l'autre encore une noix de palme. On a toujours considéré les rapports entre la France et l'Afrique comme étant des rapports conflictuels. Ceux qui empruntent la voie de la courtoisie et de l'échange sont considérés comme des traîtres. Ceux qui empruntent la voie de la brutalité sont considérés soit africanistes ou européocentristes. Donc, moi, j'ai toujours cherché d'utiliser dans mes livres la force de l'humour, la force de l'ironie. Si je peux ricaner de mes propres malheurs, lorsque je montrerai le droit, la responsabilité des autres, on m'accepterait en tant que tel, parce que je suis plus exigeant envers moi-même qu'envers les autres.
L'un des héritages de cette histoire coloniale, c'est la langue française, vous
bien
le dites
entendu.
Évidemment aussi dans ce livre. Comment l'habitez-vous, cette langue, vous qui écrivez depuis les États-Unis, enfin, qui est, voilà, c'est Santa Monica.
Ouais, ce que je revendique dans ma langue française, c'est l'accent congolais que j'ai lorsque j'écris. Même mes silences ont des accents. Quand j'écris dans la langue française, tout le monde sait bien que ce n'est pas Welbeck qui est en train d'écrire ou mon ami Fuenkinos. Et on sait que c'est un Congolais qui est en train d'écrire la langue de Voltaire, de Kuruma et de Sonny Labutansi. Et il prend tous les accents. Imaginez une langue française qui n'aurait que des accents circonflexes. Nous serons embêtés dans la prononciation, mais la variété des accents fait que la langue française redonne peut-être de l'espoir à tous ceux qui en ont perdu.
Alain Mabankou, Emmanuel Macron vous a proposé il y a quelques mois, comme il l'a fait pour Leïla Slimani, de réfléchir à la promotion de la langue française et de la francophonie. Vous avez refusé. Pourquoi?
Ah oui. En venant ici, j'avais peur. Je me disais que Léa Salamé avait bien m'étranché la gorge avec cette question.
C'est pas tellement un coupe-gorge, là, la question.
Mais vous savez, Léa Salamé, je viens d'un pays qui a rêvé de la liberté pendant longtemps, le Congo-Brazzaville. C'est un pays dans lequel un président de la République est là depuis 32 ans, sous le regard satisfait de la France. C'est ça que je ne souhaite pas. Et moi, on me demande d'aller être celui qui va travailler à la rénovation de la francophonie et de la langue française. Il y a déjà une aberration parce que ça fait 16 ans que j'enseigne la langue française aux États-Unis. Pendant que ceux qui nous donnent des leçons en France dorment, regardent la télé, ils sont contents. Moi, ça fait 16 ans que j'enseigne la littérature des troubadours, que j'enseigne les surréalistes, que j'enseigne les balzaciens, que j'enseigne tous les courants de la littérature française et la littérature africaine d'expression française.
Donc si je comprends bien, vous avez refusé parce que vous trouviez qu'Emmanuel Macron ne critiquait pas suffisamment Denis Sassou Nguesso, pour ne pas le citer, c'est-à-dire le président du Congo.
Bien entendu. Pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie est dirigée par un secrétaire ou une secrétaire qui est votée par l'ensemble des membres qui constituent la francophonie? Parmi ces membres, il y a des pays africains. Parmi ces pays africains, plus de 80% sont des pays de dictature.
La langue française, c'est aussi la langue de la dictature.
C'est la langue de la dictature. Ces Africains sont assujettis à travers la langue française. Quand on lit dans Les Cigognes sont immortels, cette sorte de combat même que je mène contre la post-colonie, ce qui s'est passé après les colonisations, parce que les Blancs, une fois qu'il est parti, nous pensions que nous avions toutes les libertés, mais on a assisté aux assassinats les plus crapuleux. Mehdi Ben Barka du côté de l'Afrique du Nord, Oum Niobe du côté du Cameroun, Thomas Sankara du côté du Burkina Faso, Marien Ngouabi du côté du Congo-Brazzaville. Le Congo, par exemple, c'est le seul pays au monde qui avait un abbé polygame et qui portait des soutanes de Pierre Cardin devant la France. C'est la France qui a posé l'abbé Fulbert Youlou à l'intérieur, au pouvoir au Congo-Brazzaville. Je le dis dans le livre. Il y a une certaine histoire, on pense que c'est l'histoire du Congo qui se trouve dans mon livre, mais en lisant Les Cigognes, on voit concrètement aussi l'histoire de la France. Vous avez les Bob Denard. Pourquoi la France est allée intervenir? Pourquoi la France est intervenue à la guerre de Biafra alors qu'elle n'avait jamais colonisé
le Nigeria? La francophonie, c'est quoi? C'est la langue de tout ça? C'est un concept néocolonialiste ou c'est autre chose?
La francophonie, je le dis toujours et toujours, est la continuation de la politique étrangère de la France par une voie détournée tant qu'elle ne deviendra pas une francophonie des peuples. Je souhaite qu'on vote, qu'on vote les secrétaires de l'Organisation internationale de la francophonie par les peuples.
France Inter, il est 8h30. Et notre invité ce matin est Alain Mabankou. Alain Mabankou, vous vivez, vous l'avez dit, vous enseignez aux États-Unis. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'Amérique de Donald Trump? Ce pays est-il en train de redevenir raciste, tout simplement?
Je pense que les silences et puis les agissements et peut-être même le comportement, voire la couleur de la politique imposée par Donald Trump en Amérique est en train de faire reculer d'un pas, de même voire même de 10 pas l'Amérique. Ce n'est plus « Make America Great Again », mais on est en train de reculer parce que forcément on a à la tête de l'État peut-être un président qui est atypique. Mmh. C'est le côté atypique qui fait que désormais même la société américaine se retrouve dans une photographie atypique. De loin, on voit les personnages, mais on ne peut pas bien dévisager qui est derrière.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce concept d'homme blanc en colère, comme on dit aux États-Unis, en colère car frustré, déclassé, qui de fait aurait pris sa revanche avec l'élection de Donald Trump?
Oui, je pense que cette frustration est là. Imaginez une Amérique qui ne s'attendait pas à avoir un président noir. Pourtant, moi, j'ai toujours dit c'est 50-50. La mère est blanche, le père est noir. Bon, aux États-Unis, c'est noir. Donc, un président noir, c'était déjà une sorte d'affront, d'ignominie pour ces racistes, pour ces gens qui avaient l'idée de la suprématie blanche. Et vous avez une autre élection qui va opposer Donald Trump à Hillary Clinton. Le même Américain de base raciste va se dire, après un noir, nous allons avoir une femme, c'est pas possible. Donc l'arrivée de Donald Trump consolide en quelque sorte ce vivier de racisme, de la suprématie. Et d'ailleurs, je conseille à beaucoup d'aller voir le film de Spike Lee qui est là pour comprendre un peu aussi le mécanisme de l'Amérique d'aujourd'hui, puisque le film se termine avec des images de Donald Trump actuellement.
Mais est-ce que vous comprenez pas, paradoxalement, que les démocrates, que la gauche américaine a trop joué le droit des minorités partout, tout le temps, et que d'une certaine manière, les Blancs, puisque c'est de ça dont on parle, se sont sentis comme réduits à peau de chagrin, parce que, est-ce qu'au fond, Hillary Clinton n'a pas aussi perdu parce qu'elle n'a joué que la carte des minorités, parlant hispanique avec les hispaniques, parlant aux Noirs comme Noirs, et pas assez de parler à l'Amérique en son entier?
Je pense que oui, Hillary Clinton s'est trompée peut-être de photographie de la société américaine. Elle avait toujours cette idée que les minorités étaient le cœur des minorités battait toujours du côté de gauche. Je crois que c'est un de nos présidents ici qui avait dit que la gauche n'avait pas le monopole du cœur. De la même manière, les démocrates n'ont pas le monopole du cœur aux États-Unis. Les plus grandes lois qui se sont faites aux États-Unis ont été parfois portées par les républicains. Il est vrai que le sens des républicains aujourd'hui n'est pas le même que le sens d'avant. Et vous savez même que républicains, ce sont des oiseaux d'Afrique du Sud. Si vous allez sur Google, vous allez voir. Les républicains, ce sont des oiseaux d'Afrique du Sud qui construisent des nids pour d'autres oiseaux qui viendraient mettre leurs œufs à l'intérieur.
Ils sont socialistes, les républicains, voilà, les oiseaux républicains.
Ça veut dire que nous autres, les Africains, parce que je parle sous le contrôle de Pierre Aski, qui connaît très bien l'Afrique du Sud, nous autres, les Africains, nous avons inventé la démocratie même avec les animaux. Donc, la photographie ne correspondait pas. Les minorités, la discrimination positive aux États-Unis, par exemple, n'a pas été inventée pour favoriser les races. La discrimination positive a été inventée pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Quand on a vu que ça commençait à marcher, on a dit on va l'expérimenter sur les races et les classes sociales.
Vous dites l'Amérique a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et qui n'était pas imaginable en France. De quoi vous voulez parler? Qu'est-ce que l'Amérique vous donne que la France ne vous a pas donné?
Écoutez, moi j'ai fait des études en France, je suis un enfant de la République, je connais ses valeurs, mais je suis aussi un Congolais. J'ai vécu dans ce pays 17 ans, j'ai eu un doctorat de troisième cycle, si on peut le dire, en droit économico-social à l'Université de Paris Dauphine. J'ai eu des professeurs qu'il fallait. Alain Minc, Raymond Barre étaient mes professeurs à l'Université de Paris Dauphine.
Et ça a donné un romancier.
François de Virieux, c'était notre professeur à cette époque-là. Mais je pouvais rester en France, je n'enseignerais pas. Aux États-Unis, quand mes livres ont commencé à être traduits, ils m'ont invité et ils m'ont donné la possibilité d'être professeur. Je ne savais même pas comment on enseigne. J'avais le souvenir.
Et pourquoi, d'après vous ?
Ben, je pense que il y a toujours un esprit corporatiste dans les les activités ou les professions en France. On ne souhaite jamais qu'un jeune ou qu'un nouveau qui vienne, qui ne passe pas par le canal de l'école nationale ou de l'agrégation, qui sorte directement pour venir échouer au milieu d'un paradis qu'ils se sont constitués depuis longtemps. Il n'y a pas de fisc dedans, donc ils veulent toujours une opération de bravoure. Donc les États-Unis n'ont pas posé cette question. Et quand ils m'ont invité pour une résidence d'écrivain, ça s'est terminé par un enseignement d'abord dans le Michigan. Et en 2006, j'ai été débauché du Michigan par l'Université de Californie. On débauche aux États-Unis comme dans les équipes de football. Hein.
Et vous êtes avant-centre ou attaquant. Beaucoup de questions d'auditeurs, on va y venir un instant. Mais j'aimerais juste vous poser cette question sur la radio. Pourquoi la radio est-elle un personnage important, si important de votre roman ?
Alors, la radio était la seule fenêtre qui nous permettait de ne pas écouter la propagande national. Quand nous avions le coup d'État qui s'est fait pour tuer le président Marien Gwabi en 1977 et qu'un comité militaire du parti s'est constitué avec pour président Yombi Opango et vice-président, l'actuel président Denis Sassou Nguesso, c'est dans le livre, nous n'avions que soit la radio venant de la France ou la radio venant des États-Unis qui s'appelait La Voix de l'Amérique et qui s'appelle toujours La Voix de l'Amérique. Donc dans mon roman, il y a l'écho de cette radio. C'est à travers cette radio que les informations viennent du monde, que les informations viennent des champs de guerre et qui arrivent jusqu'à l'enfant. Et l'enfant, à côté de son père, le père est devenu comme celui qui explique ce qui est difficile à comprendre.
Et il y a une formidable définition de ce qu'on fait sur France Inter à 8h20. Les journalistes, dites-vous, pour La Voix de l'Amérique, sont à deux. Une femme et un homme, mais c'est la femme qui commande le monsieur. Exactement.
Vous voyez, c'est pas tout à fait comme ici.
Exactement ce qui se passe dans ce studio.
Pas du tout. C'est lui qui commande.
C'est la femme qui commande le monsieur.
Je vous affirme que quand j'ai écrit ce passage, je ne pensais pas à venir à France Inter.
Ah non, mais c'est de la littérature, c'est toujours de la littérature d'anticipation.
Conflit conjugal. Alain Mamboncou, vous n'arrivez pas à quitter Pointe-Noire. Vous n'en finissez pas d'écrire sur votre Congo natal, votre pays natal, où vous êtes persona non grata. Depuis que vous avez émis des critiques contre Denis Sassou Nguesso, vos livres sont interdits là-bas, dans votre pays. Est-ce que votre manière de continuer à écrire encore sur le Congo, c'est de pallier le manque, de continuer à tisser le lien, de rester là d'une certaine manière ?
Et je pense que je ne suis pas offusqué, on m'a interdit le séjour au Congo parce pour ce que j'écris. Je fais la peinture de la société qui est la mienne, Pointe-Noire. Et il faut toujours, quand on écrit, il faut continuer à creuser. Je vais dire que Gabriel Garcia Marquez ne s'est pas ennuyé de parler de Macondo dans son temps de solitude, puis d'étendre son champ d'action autour de son périmètre carré. Quand on lit les Boris Pasternak, quand on lit les Gogol, la Russie est toujours à l'intérieur. Moi, je me méfie toujours des écrivains à sujet. Les écrivains à sujet, eux-mêmes, doivent être sujets au questionnement. Où est le centre de gravité de votre imaginaire? Moi, mon imaginaire, il est congolais. En creusant, je trouve du matériel qui permette à cet imaginaire d'aller picorer les autres éléments extérieurs. Mes romans naviguent comme moi.
Entre ça fait France combien de temps que vous n'y avez pas été?
Ben là, ça fera la cinquième année que je n'ai pas été au Congo. Et puis la dernière fois, j'ai entendu quelqu'un me dire que je suis interdit de séjour, que j'ai un mandat d'arrêt. Je ne sais pas ce qu'il y a. J'ai pensé jusqu'alors que j'écrivais quelque chose qui n'était pas nocif. Mais si ça peut démanteler un dictateur, si ça peut remuer, le secouer, c'est son problème. Moi, j'écris parce que c'est ce que je sais faire dans ma vie.
Quelques questions d'auditeurs via les réseaux sociaux. Alain Mabankou, Marie de Rouen vous demande la chose suivante. Selon vous, comment va la culture en France? Vous êtes directeur artistique d'un festival de littérature à Nantes. Se porte-t-elle mieux en France qu'aux États-Unis?
Je pense que, bon, il faut que nous arrêtions les larmoiements. Surtout ce matin, je voudrais plutôt lancer un certain enthousiasme. La culture française se porte bien. Et Dieu sait que quand je critique la francophonie, beaucoup confondent, ils pensent que je suis un ennemi public de quelque chose. Non, je le fais. Si j'avais pas écrit la lettre à Emmanuel Macron, il y aurait pas eu de débat des autres écrivains sur la francophonie. La langue française se porte bien. Les classes que nous enseignons, moi j'enseigne aussi bien les licences, les maîtrises ou jusqu'en doctorat, sont remplie. Et puis, la langue française reste toujours une certaine unité de mesure de la culture. C'est pour ça qu'à Nantes, avec le festival Atlantide que je dirige, je suis le directeur artistique, chaque année, au lieu de faire simplement un festival qui serait franco-français avec des problèmes franco-français de rive gauche, rive droite, eh ben, je réunis plus de 17 à 20 nationalités des écrivains qui parlent dans leur langue avec les écrivains d'aujourd'hui.
Alexis, à Paris, le monde artistique dans son ensemble se mobilise pour le cinéaste russe Sentsov. Mmh. Et pourtant, rien ne semble bouger. Que faire?
Je pense que l'indignation au sens de SL reste là. Nous, les écrivains, la seule arme que nous avons, c'est l'arme de l'indignation. Cette indignation doit être sans faille et on n'a pas le droit de séquestrer les moyens de liberté et d'expression.
Leïla, à Marseille, vous vivez aux États-Unis. Que se passe-t-il quand vous venez en France? Quel sentiment avez-vous?
Mais en réalité, je n'ai jamais quitté la France. J'enseigne aux États-Unis pendant 8 mois et le reste des 4 mois où j'écris et les vacances à l'intérieur, je suis en France. J'ai toujours gardé mon point d'ancrage. Je suis quelqu'un qui vit entre deux cultures et c'est essentiel pour moi. Quand il me manque l'atmosphère des cafés, je reviens en France.
Christophe, via l'application France Inter, était-ce utile d'enlever le morasse de la Constitution française?
Est-ce qu'il faut l'enlever? Je pense que il faut déjà commencer par regarder ce qu'il y a derrière. Avant d'enlever, il faut quand même enlever quelque chose. Tout le monde est au courant. La race, en tant que telle, fait plutôt référence à quelque chose d'animal. Nous sommes dans le domaine plus de la zoologie qu'on a extrapolé jusque-là. Je pense que ça n'a pas lieu d'être à l'intérieur, c'est vrai, de la Constitution, parce que nous ne sommes pas aux États-Unis, mais en même temps, c'est peut-être un des éléments qui permet à beaucoup de comprendre la douleur de certains qui ont formé leur identité à cause de la ségrégation raciale ou des injustices raciales. Il y a encore dans la population des amis, des compatriotes auxquels il faut dire que la race n'est pas un élément qui devrait nous permettre de privilégier l'opération de la division et de la soustraction. Il faut que nous nous additionnions. Les imbéciles n'ont pas de race. Ils ont seulement peut-être un espace qu'ils polluent.
Merci Alain Mabankou, merci d'avoir été au micro de France Inter. Les cigognes sont immortelles.
Il y a quand même une expression absolument géniale, parce que vous détournez quelques expressions françaises.
Oui. Madame a le pouvoir.
Faut pas chercher midi à 14h30. Faut pas chercher 9h à 8h40.
43, voilà. Merci beaucoup. Merci encore. Les cigognes sont immortelles, donc aux éditions du Seuil.